Alpes. Pour qui voter ?
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouvel épisode de Help pour qui voter. On vous rappelle le concept, chaque semaine, un thème spécifique est approfondi avec les présidents et présidentes de partis francophones.
Cette semaine, nous allons parler mobilité. Nous avons demandé à chaque président de parti vers quoi doit tendre la mobilité en Belgique pour les 5 prochaines années.
Vous allez entre autres entendre parler dans cet épisode de gratuité des transports, d'investissements nécessaires, d'augmentation de l'offre, ainsi que du rôle de la voiture. C'est Raja Mawan pour Ecolo qui va démarrer sur ce thème.
Donc vous avez raison de dire que la mobilité est un sujet qui est cher à notre cœur, puisque pour nous la mobilité c'est vraiment la définition de la liberté. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre par la liberté, et ce que nous voulons, c'est notre grande ambition, je vais vous expliquer après comment on veut y parvenir, mais notre grande ambition c'est de libérer justement les choix de la mobilité. Un exemple très concret, si madame ou monsieur ou X souhaite aller d'un point A à un point B, il faut que la manière d'aller de ce point A à point B soit la plus facile, la plus optimale, la plus écologique, la moins chère pour cette personne. Et donc parfois, ça va être le train, parfois ça va être la voiture, parfois ça va être les transports en commun. Et nous, ce que nous voulons aussi, c'est vraiment de diminuer cette dépendance à la voiture. Il y a aujourd'hui des personnes, je sais qu'on fait beaucoup de clichés autour d'écolo et des voitures. Pour écolo, il faut juste diminuer cette dépendance à la voiture et de faire en sorte que le choix des transports en commun soit le choix le plus simple et le plus efficace et le moins cher possible. Et donc, on a une volonté à travers la mobilité de rééquilibrer en fait l'espace public, de rééquilibrer les différents modes de transport et de faire coexister les différents modes de transport. L'idée, c'est pas de faire disparaître un mode de transport plutôt qu'un autre, c'est de multiplier les développements envers les transports publics, parce que c'est un bien commun aussi, c'est des transports, c'est des moyens de transport qui peuvent justement transporter plus de personnes, c'est plus écologique, et donc en ce sens on a fait toute une série de choses pour rendre le choix des transports en commun préférentiel. Le fait que à Bruxelles et en Wallonie, avec les écologistes, parce que c'est les écologistes qui ont la compétence tant à Bruxelles qu'en Wallonie, jusqu'à 25 ans, c'est 1 euro par mois. Enfin, de 0 à 12 ans, c'est gratuit, mais de 12 à 25 ans, on est à 1 euro par mois pour les transports en commun. On est à 1 euro par mois pour les personnes de plus de 65 ans. On est à 1 euro par mois pour les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée. Et donc, tout ça, c'est vraiment pour rendre les transports en commun les plus attractifs, les plus efficaces possibles. Et parce qu'en fait, en diminuant la dépendance à la voiture, on va aussi libérer l'espace public pour des personnes qui ont réellement besoin de leur voiture. Il y a des personnes qui ont besoin de leur voiture. Les indépendants, les kinés qui passent de maison en maison, les médecins qui passent de maison, les livreurs, etc. Et donc, moi, je pense aussi à ces personnes qui passent des heures et des heures dans les bouchons. C'est pas agréable. C'est pas agréable pour ces personnes-là. C'est pas agréable pour la collectivité. Et donc, c'est aussi pour ces personnes-là qu'on veut multiplier les différentes offres de transport pour diminuer cette dépendance à la voiture. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture parce que les transports en commun ne sont pas suffisamment développés, parce que les transports en commun sont trop chers. Et donc, ils et elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Et nous, on veut développer, multiplier ces choix-là.
Au sujet du métro.
Mais donc là aussi, il y a des clichés sur écolo qui est contre le métro. Moi, j'utilise très régulièrement le métro. J'ai deux lignes de métro à portée à 3 minutes de chez moi. Et donc, j'utilise toujours. J'adore me déplacer en métro. Et donc, dire que écolo est contre le métro, c'est une ineptie et c'est faux. Par contre, aujourd'hui, à Bruxelles, concernant la problématique du métro, est-ce que nous voulons du métro ? Pourquoi pas ? La réponse, elle peut être oui, mais à quel prix ? C'est ça la vraie question. À quel prix ? Est-ce que on va mettre tout l'investissement de la région bruxelloise pour développer un métro qui ne verra pas le jour d'ici 5, 10, même pas dans 5 ans, même pas dans 10 ans, on parle de 15 ans dans les meilleurs des cas. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est ça le choix que la région de Bruxelles doit faire pour sa mobilité ? Je ne suis pas sûr, mais on n'est pas par principe opposé au métro. On dit juste attention. À quel prix on peut développer ce moyen de transport-là. En attendant, on peut développer des alternatives en surface, développer plus de trams, multiplier l'offre des lignes de bus. Et donc, tout ceci, ce sont des choses à mettre en place très rapidement, puisque même si on se met d'accord sur le métro, il ne verra pas le jour avant 10-15 ans.
Germain Mugemangango, du PTB.
Bah, d'abord, le bilan, je veux dire, des gouvernements qui s'occupent de la mobilité, donc de manière particulière le gouvernement fédéral pour ce qui est des chemins de fer et les gouvernements régionaux pour ce qui est des bus et des trams, est assez catastrophique. Je veux dire, il suffit de regarder, encore on a eu une nouvelle de la presse il n'y a pas longtemps qui expliquait que par exemple Bruxelles, pour prendre cet exemple-ci, est la 5e ville la plus embouteillée d'Europe, la 10e ville la plus embouteillée du monde, donc c'est quand même assez incroyable, et donc en fait on ne va pas dans le bon sens, alors que ce qu'on devrait faire c'est justement offrir la possibilité à tout un chacun d'avoir des transports efficaces, des transports bon marché, accessibles. Et donc là, on n'y est pas. Ça, c'est clair qu'on n'y est pas. Donc, au niveau fédéral, on a un ministre pourtant qui est du Parti écolo, M. Gilles Quinet, qui devrait avoir ça à cœur. Et on n'a jamais eu autant de trains en retard, annulés. Donc, on dirait parfois que, justement, ce type de politique-là a plutôt tendance à dégoûter les gens des transports publics plutôt que le contraire. Et ce qui nous frappe aussi, c'est cette logique un peu de punition, en fait, hein, finalement, de certains usagers de la voie publique, notamment ceux qui ont des voitures. Quand on voit, par exemple, les zones de basse émission qui sont organisées, notamment à Bruxelles. À Bruxelles, par exemple, si vous venez avec la mauvaise voiture, c'est 350€ d'amende. Donc, je veux dire, les gens commencent à le savoir. Moi, dans mon entourage, je commence à avoir des gens qui payent ces 350€ d'amende parce qu'ils ne sont pas encore au fait de qu'est-ce qui peut rentrer et pas rentrer à Bruxelles. Et cette logique de zone de basse émission qui est portée par PS, MR, écolo engagé, est en fait une logique qui va aussi s'exporter en Wallonie. Et pourtant, ça concerne des dizaines de milliers de voitures, puisque finalement, à l'horizon 2030, on parle de centaines de milliers de voitures qui seraient concernées par des exclusions en fait, de zones entières finalement, de circulation. Mais j'ai envie de dire, comment vont faire les travailleurs et les travailleuses qui ont besoin de leurs voitures, et surtout dans des régions où les transports en commun ne sont pas forcément bien organisés. Et alors, là où il y a quand même une contradiction flagrante, c'est qu'il y a toute une politique qui s'en prend, notamment aux usagers de la voiture ou à d'autres usagers, par exemple, quand on parle de ce qui se passe à Bruxelles avec Smart Move. Et pourtant, on a une classe politique qui, manifestement, ne se gêne pas de prendre tout simplement l'avion, puisque on a vu dans la presse que les ministres, collectivement, ils ont fait 66 fois le tour du monde en avion, en jet privé. Et en Wallonie, par exemple, on s'en prend en voiture, mais par contre, quand on dit qu'on veut s'en prendre au saut de puce des jets privés qui se passent notamment en Europe et en Belgique en particulier, il n'y a pas de sanction, là, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est deux poids, deux mesures. Donc, quelque part, on s'en prend aux travailleurs et aux travailleuses qui ont pourtant besoin le plus souvent de leur voiture pour se déplacer, qui aimeraient bien avoir évidemment un transport en commun qui soit accessible, confortable et efficace. Et par contre, ceux qui polluent le plus, donc en jet privé, eux, finalement, on ne les touche pas. Et donc, et par rapport aux jeunes en particulier, il y a eu, nous, on combat depuis très longtemps pour la gratuité des transports en commun, mais aussi pour des transports efficaces. Il y a des mesures qui ont été prises, il faut le reconnaître, notamment au niveau de la région Wallonne, où il y a une gratuité qui a été organisée, enfin une quasi-gratuité, puisqu'on parle d'un abonnement qui coûte 1€ par mois, donc ça on peut évidemment reconnaître que c'est vraiment assez modique, mais seulement pour les personnes qui ont plus de 18 ans. Donc en fait, les jeunes qui ont plus de 18 ans, eux, jusqu'à 24 ans, je pense, ont l'occasion de prendre effectivement ce type d'abonnement-là, pas cher. Moi j'ai deux enfants, mon fils il a 14 ans, ma fille va avoir 18 ans, elle a 17 ans, et donc eux, par exemple, n'ont pas droit à cette quasi-gratuité. Et pourtant, celui qui est ministre et qui veut désenclaver les villes, qui veut justement enlever les embouteillages du matin et les embouteillages la fin de l'après-midi, quand les enfants sont justement en train de sortir de l'école et sont pris en charge par leurs parents, devrait justement offrir la gratuité aux jeunes du secondaire aussi, pour justement éviter ces encombrements. Quand on dit ça au ministre Henri, qui est pourtant ministre écolo de la région Wallonne, il n'a pas l'air de comprendre cette logique-là. Et donc pour nous, c'est clair que les transports doivent être justement bon marché, voire gratuits, doivent surtout être efficaces, confortables, et que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et qu'il ne faut pas aller vers une logique punitive qui justement va punir les personnes qui ont besoin de leur voiture, alors qu'on laisse finalement les plus riches qui volent en jet privé tranquilles.
Maxime Prévost, des engagés.
Il y a un vrai enjeu, c'est celui d'éviter la congestion. D'abord, ça mêle les nerfs, on va être très clair. Ensuite, c'est une perte terrible en productivité, en efficacité. C'est un enjeu désastreux sur le plan de l'environnement et du climat. Et donc finalement, quand on se donne la peine de regarder la question de la mobilité avec des yeux un petit peu plus modernes, on se rend compte que c'est un enjeu de société majeur qui ne peut pas juste se résumer à la volonté d'éviter des bouchons ci et là. Il y a plusieurs facteurs qui nécessitent de changer les lunettes avec lesquelles on regarde la politique de mobilité, et notamment parce que de génération en génération, les attentes et les pratiques, elles évoluent aussi. On voit que les jeunes passent aujourd'hui leur permis de conduire beaucoup plus tard que les générations précédentes, qu'il y a une volonté aussi de se localiser de manière délibérée à proximité des pôles de transport public. C'est fini finalement de rêver, de vouloir à 18 ans avoir d'office la bagnole et la maison quatre façades en périphérie. Aujourd'hui, il y a une vraie osmose aussi entre le tissu urbain et les transports publics, et l'espace doit être beaucoup plus partagé. Le tout à la bagnole a montré toutes ses limites. Alors il ne faut pas, comme certains écologistes, venir être dans une démarche punitive à l'égard des véhicules, parce qu'ils restent encore nécessaires pour une série d'activités. Ce n'est pas toujours avec les horaires du métro ou de la STIP que vous arriverez à emmener vos enfants à leur activité sportive, au scout, à la danse, et puis vite rechercher à la piscine, et puis refaire un crochet par chez mamie. Bref, il faut être lucide. Par contre, beaucoup plus de développement, évidemment, d'axes sécurisés pour les flux piétons, pour les flux vélos, d'autant que le vélo électrique maintenant a ouvert le champ des possibles très largement. Et donc, ayons une conception beaucoup plus partagée et moderne de l'espace public qui ne soit plus freinée non plus par les querelles institutionnelles. Vous prenez l'exemple du ring. Tout le monde sait qu'on doit à un moment donné mettre les mains dans le cambouis et repenser cette mobilité. Mais attention, il y a un tronçon de 2 km qui dépend de la région de Flamande, tel autre tronçon qui dépend de la Wallonie, tel autre tronçon de Bruxelles. Mais s'il y a bien... on dit souvent que le climat ne connaît pas les frontières. Parce que finalement la tonne de CO2, peu importe de quel côté de la frontière elle se situe, elle génère la même pollution. Mais en termes de mobilité, les flux des citoyens, ils connaissent pas non plus les frontières de notre lasagne institutionnelle, et donc c'est la raison pour laquelle les engagés pensent que la mobilité c'est certainement une des compétences qui devrait être à nouveau refédéralisée, et si pas complètement, au moins pour la gestion de Bruxelles et de ses abords, parce que toutes les régions sont concernées, et finalement c'est les Bruxelles lois sinon qui en font les frais.
Au sujet de la voiture salaire.
Donc notre souhait, c'est de proposer une alternative en gain net de pouvoir d'achat à cette voiture salaire, mais son changement d'optique ne pourra se faire qu'à partir du moment où en amont, préalablement donc, on aura changé radicalement notre système fiscal.
Paul Magnette pour le PS.
Alors, on a déjà beaucoup investi dans la mobilité dans les grandes villes, même si je pense qu'on ne doit pas se concentrer que sur les grandes villes, j'en dirais quand même un mot. Il faut aussi penser aux zones rurales et aux alentours des grandes villes. Dans les grandes villes, on a renforcé l'offre et on continue à le faire, l'offre de métro, l'offre de tram, l'offre de bus et les fréquences. Et puis, on a surtout rendu les transports en commun beaucoup plus accessibles d'un point de vue financier, puisqu'on avance vers la gratuité. Le but, c'est d'arriver à la gratuité totale. On a déjà la gratuité 0-12 ans. On a créé la gratuité, la quasi-gratuité pour les 18-25 ans, un abonnement à 1 euro par mois, ce qui a permis de plus de tripler, voire quadrupler le nombre d'abonnements, et qui représente vraiment une économie très très importante pour les familles. Et puis, on voudrait évidemment qu'entre 12 ans et 25 ans, on puisse aussi avoir la gratuité pour tous les jeunes qui sont aux écoles secondaires. Donc c'est vraiment un moment très important. On a aussi la quasi-gratuité pour les seniors, et donc ça, c'est vraiment des avancées qu'on veut pouvoir continuer à faire. Il y a évidemment beaucoup de choses qui dépendent aussi de l'aménagement du territoire. Moi, de plus en plus, je me balade à pied, à vélo, en trottinette de temps en temps. À beaucoup d'endroits, on ne se sent pas encore tout à fait à l'aise, il faut bien le reconnaître, et donc avoir davantage de pistes vraiment sécurisées, de trottoirs sécurisés, de passages, des carrefours qui soient pleinement sécurisés, ça reste évidemment extrêmement important. Et puis, je le disais, je voudrais bien qu'on n'oublie pas les zones rurales ou les zones aux alentours des grandes villes, les quartiers résidentiels, parce que c'est pas toujours facile dans ces zones-là de se déplacer. Comme il y a moins de densité, par définition, on peut mettre moins de transports en commun à disposition, sinon on fait rouler des bus à vide, donc c'est pas l'option. Mais il y a des solutions, il y a notamment les bus à la demande qu'on peut développer de plus en plus en Wallonie ou à Bruxelles. Il y a des taxis sociaux qu'on peut développer aussi, il y a des initiatives associatives qui sont développées également. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut lancer aussi pour permettre que la mobilité autour des grandes villes et dans les zones plus éloignées soit elle aussi accessible à tous.
Comment financer la gratuité ?
Ben ça, c'est des choix politiques. Ça ne coûte pas si cher que ça, en fait, quand on regarde les tarifs. J'avais même proposé la gratuité pour la SNCB. En fait, on voit qu'aujourd'hui, déjà, la SNCB, elle est très, très largement soutenue par le budget de l'État, hein, puisque la billetterie, ça ne représente à peu près un quart seulement des recettes de la SNCB. Donc 750 millions environ, selon les dernières estimations que j'avais obtenues. Bon, évidemment, si on fait la gratuité pour tout le monde, c'est un budget important, mais on pourrait se dire qu'on commence, par exemple, par les jeunes travailleurs, et ça coûterait à peu près 150 millions. Donc voilà, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, c'est vrai, mais on peut progresser législature après législature et faire en sorte qu'on fasse progresser cette cause de l'accessibilité à la mobilité pour tous. Considérer la mobilité comme un bien de première nécessité qui doit être accessible à tous.
Au sujet du métro.
Je pense qu'on a besoin de continuer à développer des infrastructures de transport collectif massives, le métro, mais aussi des trams, des bus à haut niveau de service. Ça reste absolument indispensable. Bruxelles est une grande ville et doit se vivre comme une grande ville et doit avoir des ambitions de grande ville.
François de Smet, de Défi.
Alors, je crois qu'on essaie de réussir la transition climatique aussi sur la mobilité. C'est plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est normal et tout le monde doit s'y mettre. Mais on n'a pas encore trouvé, me semble-t-il, le bon tempo entre la contrainte et les alternatives. Moi, ça me semble normal de demander aux gens petit à petit d'abandonner leur voiture, mais il faut encore que les alternatives soient là. Et on fait parfois les choses à l'envers. Il y a des quartiers où on commence à mettre des mailles, où les gens sont insuffisamment consultés visiblement, où ils doivent tourner des heures pour trouver une place pour rentrer chez eux, alors qu'ils n'ont pas d'alternative de transport en commun qui fonctionne. Dans l'autre sens, là où Good Move a fonctionné, comme par exemple dans le Pentagone, c'est parce qu'il y avait déjà un réseau de transports en commun, de métro, de tram, de bus performant. Donc moi, je dirais que la plus grande des priorités, c'est le développement du transport en commun par tous les moyens. Ne pas avoir de tabou sur le métro, il faut faire ce métro 3, il faut le terminer. Ne pas avoir de tabou sur les autres lignes de tram, de bus. Terminer enfin le RER, inviter à de la mobilité douce. On va tous devenir... on va tous faire de la mobilité alternative, on va tous se mettre à faire du vélo, de la marche, de la voiture de temps en temps, de la voiture partagée, rendre les trains aussi peut-être plus confort. Je crois que pour voir une série de nafteurs le faire, je vois bien que dans le calcul je suis coincé dans un embouteillage 1h30, 2h, mais j'ai mon petit confort, j'ai ma petite radio, et le fait d'être entassé dans un train où je suis encaqué avec des tas d'autres gens et où les trains sont en retard, etc. Je pense que les gens préfèrent encore le confort qu'on peut qualifier d'égoïste de leur petite bulle. Si les trains étaient plus à l'heure, plus nombreux, dans des gares plus accueillantes, avec du wifi, ça aiderait. Et donc, j'ai envie de dire ça, c'est envisageant toutes les solutions de mobilité pour aider les gens à se séparer de leur voiture, mais la carotte et le bâton ne sont pas encore utilisés de manière, à mon avis, complètement cohérente.
Que pensez-vous de la gratuité ?
Alors, au risque de déplaire, moi je trouve ça hyper démago de promettre la gratuité. Alors attention, on sort d'un gouvernement où on est allé vers des tarifs extrêmement bas pour les jeunes, pour les seniors, ça me semble normal. Par contre, commencer à étendre la gratuité à toute une série de personnes, je trouve ça hypocrite. D'abord, la gratuité, ça n'existe pas. Toujours quelqu'un qui paye. Si c'est pas vous comme consommateur, c'est vous comme contribuable. Et c'est encore pire, vu la situation actuelle des régions et de la région bruxelloise en particulier, c'est le contribuable de demain, c'est-à-dire les jeunes gens qui ont 20 ans maintenant, leurs enfants, etc., etc. Est-ce que la gratuité du transport en commun, du ticket de bus des travailleurs ou des non-travailleurs d'ailleurs aujourd'hui doit être payée par leurs enfants ou leurs petits-enfants ? Chaque fois que quelqu'un vous parle de gratuité, en fait, ça revient à ça. Deux, il me semble qu'on a justement, au contraire, pour l'instant, des infrastructures à mettre en place. La STIB, typiquement, ne s'en sortirait pas sans le budget régional, ne pourrait pas fonctionner juste avec la billetterie, idem pour le train. Et donc, l'idée de dire qu'on va encore leur couper des ressources en plus, alors qu'on a plutôt besoin de développer le réseau, de creuser un métro, de faire des lignes de bus, de faire des lignes de tram, ça me semble un calcul bizarre. Le jour où on aura un réseau complet, et le jour où il y aura une croissance qui permettra de donner des phénomènes de gratuité, avec plaisir. Ici, il y a une gratuité ou des tarifs très légers ciblés pour les gens qui en ont besoin, ceux qui cherchent un emploi, les jeunes, pour les habituer, les inciter positivement à voir que c'est pas sorcier de prendre les transports en commun. Ça y a une certaine logique liée à leur pouvoir d'achat plus faible et au fait qu'il s'agit de les éduquer à une bonne pratique. Ça, je comprends tout à fait. Mais pour le reste, ça me semble, moi, un débat plutôt démago. Je sais que plein de partis le proposent. Mais moi, je me permets de dire qu'il n'y a pas d'argent magique et qu'il y a toujours quelqu'un qui paye.
Georges-Louis Boucher du MR.
C'est une mobilité avec une multimodalité, ça veut dire différents modes de transport. Donc c'est pas une ville dans laquelle il n'y a plus de voitures, ça non. Mais ça veut dire c'est une ville dans laquelle il y a toujours une possibilité, bien évidemment, d'avoir sa voiture, surtout pour les personnes qui vivent au sein de cette ville et qui doivent, par exemple, transporter des courses, du matériel, qui doivent aller déposer des enfants. Par contre, l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent de l'extérieur soient beaucoup plus incitées à laisser leur voiture à l'entrée de ville et d'avoir alors une solution alternative à cette entrée de ville, qui peut être, bien évidemment, du transport en commun, des vélos partagés, des navettes qui peuvent devenir des navettes autonomes d'ailleurs dans le futur. Donc l'idée est de pouvoir faire en sorte que finalement on ait le meilleur usage du véhicule disponible. Pour cela, il faut aussi faire évoluer la mentalité par rapport à la propriété de la voiture. C'est-à-dire que le but n'est plus nécessairement d'être propriétaire de son moyen de transport, que ce soit une voiture ou un abonnement de train ou un abonnement de bus, mais plutôt qu'on ait un budget de mobilité que l'on puisse utiliser au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où vous aurez absolument besoin d'une voiture parce qu'il pleut et vous devez transporter des plans, par exemple, et vous êtes architecte. Mais par contre, il y a d'autres jours où vous irez beaucoup plus volontiers au travail, en métro, en train, ou avec un vélo. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous êtes propriétaire d'un moyen de mobilité, par exemple même un abonnement de train, comme je le disais, ou une voiture, vous vous sentez toujours obligé d'utiliser le même moyen de mobilité. Et c'est ça qui ne va pas, et c'est ça qui doit pouvoir évoluer. Et donc, troisième élément, donc premier élément, les gens qui viennent de l'extérieur, on les incite à laisser leur voiture et à avoir une alternative. Deuxième élément, on est plus sous un rapport de propriété, mais plutôt d'usage du moyen de transport. Troisième élément, il faut beaucoup plus finalement de capacité à faire évoluer aussi la mobilité selon les heures de la journée. C'est-à-dire que avoir par exemple des sens interdits ou des limitations de vitesse et qui sont exactement les mêmes toute la journée, c'est un peu absurde. Pourquoi ? Parce qu'en plein jour, au moment de la sortie de l'école, le 30 est tout à fait justifié et il faut peut-être fermer certaines rues pour garantir la sécurité des enfants. Mais ces mêmes rues en pleine nuit, en soirée, quand vous sortez du théâtre, du restaurant, vous allez en boîte ou quoi, peut-être que ces rues pourraient changer. Et donc ça, avec les nouveaux moyens technologiques, on peut avoir des panneaux qui soient dynamiques, on peut avoir une gestion via intelligence artificielle qui modifie toute une série de dispositions de ce type pour fluidifier le trafic, l'usage des transports en commun et qui s'adapte aussi aux besoins des gens. Parce que tard le soir, vous aimez peut-être avoir la voiture un peu plus près de vous que la journée, vous prendrez un transport en commun ou un vélo. Et donc, tous ces éléments doivent mieux s'adapter à la vie quotidienne. C'est très bien de dire, par exemple, qu'on prend le vélo, mais objectivement, quand vous allez dîner, si en plus vous avez des enfants avec vous, là, vous avez peut-être envie d'avoir un changement. Et donc, je pense que c'est surtout ça. Aujourd'hui, on est l'esclave de son moyen de transport, plutôt que d'avoir une mobilité qui s'adapte aux besoins qui sont très évolutifs dans votre vie, mais parfois très évolutifs aussi au sein d'une même journée.
Au sujet du métro,
nous on est plutôt pro-métro effectivement. Il y a cette bagarre métro-tram, en fait ça vient bien de deux philosophies différentes. Il y a une philosophie qui veut faire disparaître les voitures de la ville et une autre philosophie qui veut plus de multimodalité. Et donc la grande différence c'est que le tram ne laisse plus d'espace en tout cas ou réduit l'espace disponible pour les voitures, alors que le métro, puisqu'il est en souterrain, permet de continuer à avoir des surfaces aériennes qui permet alors de fonctionner avec d'autres moyens de transport.
Que pensez-vous de la gratuité ?
Mais la gratuité absolue, c'est n'importe quoi, puisque la gratuité absolue, en fait, c'est du définancement des transports publics. Et donc, dire la gratuité pour tout le monde, c'est pas ça qui va faire que les gens vont arrêter d'utiliser leur voiture. Aujourd'hui, une voiture représente un coût mensuel entre 500 et 1000 euros. Et donc, à partir de là, celui qui sait se payer une voiture, sait se payer un abonnement à la STIB. Donc, c'est assez absurde comme critère. Par contre, tout cet argent-là, c'est autant d'argent qui n'est plus investi derrière au niveau des transports où les pouvoirs publics doivent compenser. Je pense par contre qu'il y a aujourd'hui un mauvais usage de l'argent public. Vous savez, le personnel de la STIB a doublé depuis 2004. Il a doublé. Pourtant, on n'a pas doublé le nombre de lignes. Donc, c'est que du personnel administratif. C'est véritablement un manque de gestion rigoureux de l'argent public. Alors que ce sont des moyens qui pourraient être utilisés justement pour les transports, pour le service aux gens.
À l'écoute de chaque intervenant, un point rassemble tout le monde. Il n'y a juste pas assez d'offres de transport en commun. Par contre, on retrouve un clivage sur la gratuité de ces transports. Défendu par PS Écolo PTB, mais conspué par les autres.
Autre point de friction, le métro, qui n'obtient pas les faveurs d'Écolo par rapport aux autres moyens de transport, ainsi que le rôle exact de la voiture, qui est notamment défendu par le PTB, les engagés ou le MR.
On le sent, la mobilité est un sujet crispant et essentiel. Les prochains gouvernements devront s'accorder sur une politique ambitieuse, surtout en matière d'offres donc.
Enfin, et comme toujours en fin d'épisode, voici la tant attendue question bonus. Nous avons demandé aux présidents de parti quelle était leur coalition idéale. On vous laisse écouter les réponses et on se retrouve dans une semaine pour un épisode axé sur le droit des femmes, des minorités et autour du terme wokisme.
Oh, moi je suis comme centriste, pas dans une démarche visant à dire « Ah, il me faut à tout prix la coalition la plus progressiste possible » ou « À tout prix la coalition la plus conservatrice possible ». Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir la coalition qui a la recherche de l'efficacité plus que de l'esbrouf. Trouver des hommes et des femmes politiques qui essayent de vendre leur cam, qui essayent de se montrer à chaque fois sous le plus beau jour, qui font des promesses à tout va, ça, c'est pas compliqué. Trouver des gens qui vont peut-être accepter d'être un peu impopulaires, mais parce qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre des réformes dont ce pays a foncièrement besoin, ça court moins les rues, et c'est plutôt avec ces gens-là que j'ai envie de travailler, ceux qui ont un état d'esprit visant à dire « on a le devoir aujourd'hui, dans une période difficile, de générer des résultats sur le terrain pour la population ».
Moi, j'ai toujours voulu faire les coalitions les plus progressistes possibles. Je l'ai toujours fait, d'ailleurs, que ce soit à l'échelle de la Wallonie ou à l'échelle fédérale. Bon, évidemment, ça dépend des résultats électoraux. Et ça dépend aussi de la volonté des partis. Quand vous avez des partis comme le PTB, par exemple, qui se présentent devant les électeurs, mais qui disent « de toute façon, je n'irai pas au gouvernement », bah, ça pose un vrai problème, parce que c'est des voix qui sont perdues, finalement, pour faire un gouvernement. Donc, j'espère que les hommes et les femmes qui croient dans la solidarité, dans l'égalité, dans l'épanouissement, dans les libertés, voteront pour des partis de gauche qui prennent leurs responsabilités et qu'on puisse former les gouvernements les plus progressistes possibles.
Oh, mais en fait, nous, ce qu'on aurait, évidemment, pas le MR, donc ça me paraît évident, je crois qu'ils ont choisi vraiment leur camp, c'est le camp des multimilliardaires, donc, et évidemment, de manière plus naturelle, des partis comme le PS et Écolo sont dans ma carte politique plutôt des partis progressistes, mais par contre, ce qui est parfois interpellant, c'est qu'on a parfois l'impression qu'ils fonctionnent quand même avec un logiciel néolibéral, et donc ils doivent rompre avec ce logiciel-là, donc ça c'est vraiment très important, et je pense qu'effectivement, si l'EPS et Écolo pouvaient rompre avec ce logiciel-là, et rompre avec ces politiques en matière énergétique, en matière d'emploi, etc., ben, des collaborations seraient possibles, mais il faut cette rupture.
La coalition idéale, c'est une coalition où il n'y a pas, bien sûr, de toute façon, on n'a pas d'exclusive sauf envers l'extrême droite, et donc pas d'extrême droite, mais la coalition idéale, c'est celle qui nous permettra d'avancer le plus loin, le plus vite, le plus fort dans la transition écologique et solidaire, dans la protection des minorités, dans la protection du vivant, dans la redistribution et dans l'augmentation des salaires, dans un investissement dans les services publics. Et donc, voilà, c'est une coalition de rêve pour moi.
Tous potentiellement, sauf le Vlaams Belang, le PTB et la NVA. Voilà, ça peut paraître bateau, mais déjà, je fais plus exclusif que d'autres. Et honnêtement, ça dépend. Sur le social, c'est plus facile avec le PS. Sur la neutralité, la mobilité, c'est plus facile avec le MR. Sur les droits humains, c'est plus facile avec Écolo. Voilà, on va un peu laisser l'électeur donner son avis aussi, en espérant surtout qu'il nous aide, nous, à avoir la main.
Pour moi, c'est une coalition qui est le plus de centre droit possible. Et donc, déjà l'Open VLD, puisque c'est notre parti frère. Pour moi, une coalition idéale, c'était la coalition CDNV, NVA, VLD-MR, très clairement. Parce que c'est une coalition qui est beaucoup plus homogène sur le plan politique.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne louper aucun nouvel épisode. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. We'll be right back.
pivoter.